Bienvenue sur Soigner Soignant, Win-Win, à votre santé, le podcast qui explore la relation de soins. Tous les deux mois, nous laissons la parole à un usager de soins, un professionnel de santé, un proche aidant ou encore toute autre personne concernée par le sujet. À travers leurs témoignages, nous découvrirons leur interaction, leur point de vue et leur initiative. Leur expérience leur a permis une prise de conscience qu'une collaboration entre soignés et soignants est dans l'intérêt de tous, pour une meilleure qualité et sécurité des soins. À leur niveau, ils ont engagé des actions pour encourager une plus forte implication des personnes soignées. Ce premier numéro est consacré au témoignage de Rémi Bertolon. Atteint de diabète, il aborde la découverte de sa maladie, son apprentissage, la relation de confiance avec les médecins et le pourquoi du comment de son podcast Diabète Live, qu'il diffuse depuis janvier 2020. Je vous souhaite une bonne écoute.
Je suis Rémi Bertolon, j'ai dépassé la quarantaine, j'ai une petite fille, j'habite pour le moment dans le sud de la France depuis quelques temps et originaire de Saint-Étienne. Je travaille en tant qu'animateur radio et présentateur journaliste, donc je fais pas mal de radio depuis le début de ma carrière. Et là aussi, je travaille sur une radio sur le sud de la France et puis j'enregistre aussi d'autres programmes qui sont diffusés dans d'autres régions en France. Je suis diabétique de type 1, ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, que je suis dépendant de l'insuline. Donc, je dois me faire des injections d'insuline parce que mon pancréas ne fonctionne plus. Moi, c'est des injections d'insuline que je me fais à plusieurs reprises dans la journée pour évacuer tout le sucre que je peux manger, qu'on retrouve tous dans les aliments, que ce soit le pain, les pâtes, le poisson, je ne sais quoi. Il y a toujours du sucre lent ou du sucre rapide à éliminer. Donc, je prends de l'insuline pour l'éliminer, pour être à peu près au niveau de tout le monde, dans le taux de glycémie, le taux de sucre que j'ai dans le sang. Ça, cette maladie que j'ai découvert, c'est que j'avais 25 ans. Il faut savoir que les types 1 sont concernés très jeunes, essentiellement jeunes, soit à leur naissance, soit quand ils sont enfants, adolescents, et jusqu'à 30 ans. Donc, moi, j'avais 25 ans, il me restait plus que 5 ans à tenir, pas de bol. Et puis, enfin, pour les types 1, il y a aussi, enfin, pour assimiler type 1, il y a aussi les femmes enceintes qui peuvent, le temps de la grossesse, développer ce type de diabète. Alors, comment ça s'est passé? C'est vrai que j'avais pas une connaissance énorme de cette maladie. Il y avait aucun cas de diabète dans ma famille, mais vraiment aucun. Donc, j'avais juste connaissance de cette maladie via les reportages qu'on a de temps en temps dans les journaux, etc. Et donc, j'avais des symptômes que j'ai pas pu lire tout de suite, en fait. Au bout d'un moment, je me suis mis à boire beaucoup en quantité d'eau. En fait, mon corps m'en réclamait de l'eau, beaucoup plus que d'habitude. Mais comme ça s'installe progressivement, sans pas arriver tout de suite. On a tendance à boire un petit peu plus d'eau parce qu'on pense qu'on a mangé un plat un peu trop salé, parce qu'on a couru le matin, etc. Et on commence à boire de l'eau, ou boire après, quand on se lasse de boire de l'eau, on boit des boissons avec du sirop, enfin bref, on trouve des variantes, des sodas, bien sûr sucrés, ce qui est surtout pas conseillé, mais on le sait pas. Donc on continue à boire, donc ça c'était un des symptômes que j'aurais pu connaître, et à ce moment-là, j'aurais alerté tout de suite mon médecin, mais je connaissais pas. Donc au bout d'un moment, ça me paraissait tout de même un peu étrange. J'en parle à mon médecin, à mon généraliste, qui percute pas tout de suite. Bon, il sait pas trop, voilà. Donc j'en parle une deuxième fois lors d'un deuxième rendez-vous. Et à ce moment-là, il décide de me faire une prise de sang que je réalise, mais tranquillement, quoi, pas d'urgence. Bon, on va faire une prise de sang. Donc je fais cette prise de sang, peut-être le lendemain ou le surlendemain. Et puis, quand j'obtiens les résultats, le laboratoire communique, comme toujours, les résultats au médecin qui a réclamé l'analyse. Et du coup, il m'appelle en urgence en me disant passez vite me voir au cabinet. Donc, c'est une docteure que je vais voir le soir en sortant du travail à 18h30, bon, sans savoir ce qui m'attend. Et c'est à ce moment-là, elle me dit au vu des résultats, il faut savoir que normalement, si tout va bien, on est autour des 1 g de sucre dans le sang. Et là, j'étais à 7 g, donc ce qui est beaucoup. Quand on dépasse trop une quantité importante de sucre dans le sang, on peut faire des comas hyperglycémiques. Avec des conséquences importantes sur notamment le cerveau, etc. Enfin, ça aurait pu être effectivement très dangereux que je fasse un malaise hyperglycémique avec trop de sucre dans le sang. Donc, mon généraliste me dit à 18h30, 19h, en face à face pour le coup, qu'elle préfère que j'aille aux urgences pour traiter le problème plutôt que me laisser partir le soir, peut-être pas comprendre l'enjeu et faire des erreurs. Et ça met aussi la responsabilité du médecin en cause s'il y a un problème dans la soirée ou dans la nuit. Ça aurait peut-être été différent si je l'avais vu le matin, mais bon, ça s'est présenté comme ça. Donc effectivement, je me retrouve à partir tout de suite en urgence. Mais alors vraiment, à 25 ans, 26 ans, on ne réfléchit pas trop quand on n'a aucun souci de santé à se retrouver en urgence, surtout pour une maladie qu'on ne voit pas. À la rigueur, on a mal aux pieds, on se casse le bras au ski, bon, on comprend, mais là... Donc un peu sous le choc, je prends la voiture et puis je me retrouve effectivement aux urgences avec une lettre du médecin. J'ai été pris tout de suite d'entrée, hein, puisque justement, risque de maladie hyperglycémique, personne ne prend de risque. Donc c'est vrai que je n'ai vraiment pas attendu, en tout cas pour le premier accueil. Et puis ensuite, j'ai été accueilli dans le service des urgences où j'ai passé la nuit. Alors c'est vrai que quelles sont mes premières réactions par rapport à cette situation, se retrouver face à un service des urgences. J'ai eu un traitement de la part des spécialistes plutôt bon, même si au début, je ne comprenais toujours pas. Hein. En fait, il m'a fallu du temps. Je me souviens, même sur le petit matin, je vois une infirmière. Je lui dis, mais c'est bon, je vais pouvoir repartir. Je ne serai pas obligé de me faire des injections comme vous me faites tout le temps. Et c'est elle qui, un peu gênée, un peu embarrassée, voit que je ne connais pas du tout la maladie, qu'aucun spécialiste ne m'a expliqué quels étaient les enjeux. C'est elle, en tant qu'infirmière, avec un petit peu de douceur, mais un peu gênée aussi, de s'avancer en me disant, bon, bah, certainement que vous serez amené à vous adapter par rapport à ça et à faire des injections tous les jours, quoi. C'est la première fois où je commence à comprendre l'enjeu de cette découverte de maladie et je me dis, bon, bah, voilà, il va falloir... ça va être un gros changement dans mon quotidien, quoi. Mais sinon, tout au long de cette première nuit, bon, bah, j'attends, j'étais pas en cas d'urgence parce qu'une fois que j'étais traité, ils ont fait descendre mon taux de sucre dans le sang, donc j'étais plus considéré comme une urgence. Donc j'étais sur le côté, j'ai dormi tant bien que mal, il y avait certainement d'autres cas beaucoup plus urgents à traiter. Voilà, après, il y a peut-être un interne qui s'intéresse à mon cas, mais vaguement, et il comprenait pas pourquoi j'étais là. Alors je lui dis, bah voilà, moi, c'est mon généraliste qui m'a dit de venir aux urgences. Lui a levé un peu les yeux au ciel en me disant, bon, bah, si à chaque découverte de diabète, on vient tous aux urgences, on ne va pas s'en sortir. Et je pense que lui-même, avec le recul, ne connaissait pas totalement le distinguo entre diabète de type 1 et diabète de type 2, et notamment les conséquences d'un malaise hyperglycémique. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les premiers rapports. Mais sinon, après, prise en charge... très bien, aux urgences, quoi. Voilà, alors en fait, l'enjeu de cette situation, de se retrouver aux urgences, pourquoi finalement je me suis retrouvé aux urgences, c'est ce que j'ai compris après, c'est que dans toute la chaîne des médecins, des infirmières, etc., c'est qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas me laisser sortir parce que je n'étais pas, entre guillemets, formé dans ma maladie. Et c'est vrai que j'étais autant ma généraliste qui m'a fait des examens, autant... les contacts que j'ai eus au niveau des urgences. Comme on n'a pas eu une formation en tant que diabétique de type 1 pour se faire des injections, etc., personne n'a voulu prendre le risque de me laisser, et ils ont raison en plus, hein, personne n'a voulu prendre le risque de me laisser partir sans formation, de savoir comment je traite ma maladie, qui en plus a géré au cas par cas, suivant les personnes, suivant le ressenti de la maladie. C'est 3 injections par jour, il y a des hyperglycémies, il faut comprendre ce que c'est en fait. Donc tout ça, c'est assez complexe dans un premier temps. Et ce volet formation, comme je ne l'avais pas eu, comme je ne connaissais pas du tout cette maladie et je ne connaissais pas ma prise en charge, personne ne voulait me laisser partir et voler de mes propres ailes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le matin même, une fois que j'ai terminé ma nuit aux urgences, on m'a transmis directement dans un pôle un peu plus dédié aux diabétiques, entre autres, et c'est à ce moment-là, pendant toute une journée, où j'ai eu une formation avec des infirmières spécialisées dans le domaine et qui m'ont expliqué ce que c'était, ce que je devais faire, etc. Et puis en lien avec un spécialiste, un endocrino qui est venu à plusieurs reprises là, pour le volet vraiment médical. Donc ce volet formation était primordial pour que je puisse partir, et je suis parti, je crois que je suis parti le soir même. Donc après une journée, on va dire, de formation, ou deux jours, je suis parti. Après, c'était bon, quoi. Donc tout le monde était tranquille de me laisser partir. Et c'est, je pense, la procédure qui est faite pour que les patients partent avec une formation type pour s'adapter. Alors comment ça s'est passé quand je suis sorti, ma recherche d'information? En fait, je suis plutôt satisfait de tout ce qui m'a été donné. Je pense avoir bien assimilé tout ça. Et je n'ai pas souvenir d'avoir essayé de contrecarrer l'information qui m'avait été donnée ou de rechercher vraiment un complément. Mon inquiétude première, c'était vraiment d'appliquer ce qu'on m'avait dit. Parce qu'en fait, dès qu'on sort, on se retrouve tout seul à manger. Chaque fin de repas, il faut faire des injections d'insuline. Donc, il faut à peu près gérer la quantité qu'il faut parce que ça varie suivant les repas, suivant l'exercice physique qu'on a pu faire, etc. Donc, varier la quantité d'insuline, la quantité de médicaments qu'on s'injecte. Et puis après, gérer les hypoglycémies parce que si on fait trop d'injections ou pour X raisons, on a fait un peu de sport ou d'activité, notre dose d'insuline, si elle est trop forte, et là, on va se sentir mal. D'ailleurs, on m'avait dit, avant de sortir, les hypoglycémies, ce sont des sensations qui sont uniques et qui peuvent changer d'une personne à l'autre. Donc, c'était vraiment... J'attendais d'avoir ma vraie hypoglycémie assez forte pour voir ce que ça me faisait, quoi. J'étais plus dans l'attente de ça. Et c'était assez bizarre, cette situation, parce qu'il y en a qui peuvent avoir des sensations de vomissement... Moi, j'avais des sensations de tremblement, en fait, assez fort. Et après, à ce moment-là, il faut se sucrer rapidement. Parce que moi, dans un premier temps, comme j'avais eu une formation plutôt claire et qu'il n'y avait pas, en fait, tergiversation, enfin, c'était clair, hein, j'avais cette maladie-là, je devais appliquer tel process. Donc, j'étais plus vraiment à appliquer ce process, cette procédure. Alors, j'ai dû appeler une fois ou deux, en cas de doute, justement, le service dédié à l'hôpital qui... montré très ouvert et justement m'avait répondu à quelques-unes de mes interrogations, mais très pragmatique. Donc c'est un contact humain que j'ai apprécié, quoi. J'ai pas eu ce réflexe d'aller sur internet, sur les forums, voilà, ou autre. Donc c'était assez pragmatique et les premiers jours je les ai vécu comme ça. Ensuite à ça, mon suivi était très simple, puisqu'après tous les 6 mois, c'est un spécialiste qu'on voit, qui check un petit peu les points forts, les points faibles, suivant une prise de sang qu'on a fait juste avant d'aller le voir. Et puis voilà. Alors, ensuite, toutes les années, et notamment au début, on se retrouve dans ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un stage, sur une journée ou deux jours, où on fait un check-up complet du volet médical, au niveau cardio, au niveau des yeux, etc. Plus un complément d'information ou de formation avec les infirmières spécialisées. Et là, on peut encore poser des questions, etc. Donc ça s'est passé comme ça. Au bout d'un an, j'y suis retourné une deuxième fois pour essayer de voir si effectivement tout fonctionnait. D'ailleurs, il demande avant de retourner dans ce stage de faire des prises de glycémie régulièrement pour avoir une espèce de carnet qu'on tient un jour pour voir les variantes au quotidien et ça nous permet de discuter. Et puis ça permet peut-être aussi de responsabiliser un petit peu les patients avant de se retrouver dans ces stages. Alors c'est vrai que le suivi en Suisse s'est enchaîné de manière assez simple les premières années dans ma découverte de maladie et dans mon suivi. Après, j'ai été amené pour raisons professionnelles à déménager. Et là, quand on déménage, on change de tout, entre guillemets, son staff de soignant. Et du coup, ça a été la difficulté première quand je me suis installé à Marseille. J'étais à Saint-Etienne, j'ai déménagé, je me suis installé à Marseille. Première difficulté, trouver un généraliste. On le sait, c'est le cas dans quasiment toutes les régions et toutes les villes, grandes ou petites. Donc là, ça n'a pas été forcément très, très simple. Donc là, je suis parti au pif. On a fait au pif, hein, puisque j'ai demandé à droite, à gauche. Mais à chaque fois que je me renseignais, c'était pas possible. Le cabinet était saturé et il prenait pas de nouveaux patients. Donc je me suis retrouvé avec un généraliste qui m'a suivi et j'ai complété ce suivi par un endocrino, donc qui est un spécialiste. Et pour le coup, là, ça s'est fait là aussi totalement au pif, puisque mon généraliste ne connaissait pas d'endocrino. Enfin, il n'avait pas travaillé récemment avec des spécialistes dans ce domaine. Donc j'ai choisi de me retourner vers une clinique qui était juste à côté de ma résidence. Et donc voilà, donc il y a un endocrino qui a pu me prendre en charge. On a fait un suivi comme ça. Mais ça a mis du temps. J'ai l'impression, hein, après chacun évolue par rapport à sa maladie et sa prise en charge. Mais le fait que j'ai dans un premier temps, j'ai été obligé de déménager, d'avoir cette espèce de temps où j'ai personne pour m'encadrer, où je change mes habitudes dans mes soignants. C'est vrai que j'ai pris de la distance par rapport à ça, par rapport à ma maladie. J'ai été, au lieu de prendre un rendez-vous tous les 6 mois, c'était peut-être un rendez-vous tous les 8 mois. Et le check-up annuel, je l'ai fait au bout de 2 ans. Donc c'est vrai que j'avais eu peut-être tendance à me relâcher un peu. Déjà, quand je suis parti, j'avais une vraie connaissance, je pense, de ma maladie et de mon comportement par rapport à cette maladie. Donc je pense qu'en arrivant sur Marseille, n'étant pas encadré, je me suis peut-être trouvé un peu à voler de mes propres ailes et je me suis peut-être pris en charge, peut-être un peu trop pris en charge tout seul. Et du coup, j'ai pris peut-être des mauvaises décisions ou j'ai laissé le temps passer comme ça, quoi. Donc j'étais peut-être un peu trop sûr de moi. Finalement, c'est quand même bien d'avoir régulièrement des spécialistes, si ce n'est une fois par an, pour nous encadrer, pour nous tenir au courant de ce qui se fait ou pas, et de ce qui est bien ou pas dans notre pratique. En fait, quand on est dans une routine avec une maladie comme ça, quand on va voir un spécialiste, quand on y est, on prend un rendez-vous sur 6 mois après, quoi. Donc en fait, on ne réfléchit même pas. Donc, c'est vrai qu'on est dans une espèce de routine où le spécialiste, en sortant du rendez-vous, dit « Tiens, quand est-ce que vous êtes disponible dans 6 mois ?» On regarde ça, plus ou moins, et après, on peut affiner. Mais du coup, on enchaîne les rendez-vous et ça crée une vraie dynamique. Le fait de se retrouver à Marseille, ou en tout cas dans n'importe quelle région où on n'a pas nos médecins habituels et on est obligé de repartir à zéro, moi, j'ai eu cette tendance à me prendre en charge tout seul. Donc, j'ai continué quand même à faire mes insulines, mes injections quotidiennes, tout ça. Enfin, ça, c'était carré. Mais justement, j'ai pris de mauvaises habitudes. Il y a des choses que je faisais moi parce que j'en discutais pas, ne serait-ce que quelques minutes avec un spécialiste. J'ai des exemples. Par exemple, je prenais beaucoup moins mes glycémies parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression de se connaître. Donc, on a un petit appareil qui nous permet de savoir à l'instant T le taux de glycémie, le taux de sucre qu'on a dans le sang. C'est important de le faire régulièrement. Ça, je l'avais un peu abandonné en pensant que tant que j'étais pas en hypoglycémie, donc ça, parce qu'on le sent tout de suite, ça allait. Les hyper, j'en faisais jamais. Donc, j'avais trop de sucre dans le sang. J'avais l'impression de ne pas en faire. Et puis après, j'ai fait une prise de sang et j'ai compris que non, c'était pas bien de fonctionner comme ça. Oui, parce qu'en fait, à l'échelle de la prise en charge à titre personnel, si on vise à 100%, par exemple, de la prise en charge par mois, donc, j'étais peut-être retombé à, je sais pas moi, 90. Donc en fait, je faisais quasiment tout ce qu'il fallait, quoi. Mais c'est pour dire, quoi. C'est pour dire j'ai eu un petit relâchement. La notion de confiance par rapport aux soignants, c'est important. Et c'est vrai que je m'en suis aperçu parce qu'à Saint-Étienne, bon, j'avais été en fait pris en charge tout de suite par le même endocrino. Le médecin généraliste m'a suivi aussi pendant longtemps. Donc j'ai découvert cette maladie et j'ai été suivi par les mêmes spécialistes pendant plusieurs mois, même pendant plusieurs années. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de confiance qui s'est mise en place. Et à chaque fois, quand je posais une question, à savoir, il y a telle évolution technique pour prendre en charge ma maladie, qu'est-ce que vous en pensez ? On me répondait en me disant, c'est peut-être intéressant, mais pour vous, c'est pas forcément pertinent. Voilà, donc il y avait un vrai rapport à échange. Et c'est vrai que je prenais vraiment en compte ce qui m'était dit. Alors, quand je suis arrivé à Marseille, avec des spécialistes que je ne connais pas, il m'a fallu plusieurs rendez-vous, mais à l'échelle d'un spécialiste qu'on voit tous les 6-8 mois, à l'échelle de plusieurs rendez-vous, finalement, ça prend du temps, où je me méfiais un peu à savoir comment ça se passait, parce que quand on change de région, quand on change de pratique et de praticien, forcément, il y a des petites variantes. Donc, je prenais quand même moins en compte l'avis du spécialiste, même si je fais toujours confiance, évidemment. J'étais peut-être plus à la recherche d'informations si j'avais un doute. Alors, qu'est-ce qui peut créer la notion de confiance ? Je pense que c'est le rapport, l'échange qu'on a dans les premiers temps et la sensation de ne pas être un dossier, mais une personne. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à expliquer, mais ne serait-ce qu'un médecin qui soit relu son dossier, soit de mémoire, il se souvient de telle ou telle pratique qu'on a au quotidien ou d'un rendez-vous sur l'autre. Il se recadre très vite par rapport à notre dossier à nous. Ça crée une vraie confiance. Alors c'est vrai qu'aussi par rapport à ce rapport de confiance, quand je suis arrivé à Marseille avec un nouveau spécialiste, lui avait, parce que d'un point de vue professionnel, il pense que c'était très bien, avait tendance à conseiller à ses patients d'installer une pompe à insuline, ce qui veut dire que c'est un espèce de boîtier qu'on a sur nous et qui injecte tout seul la quantité qu'il faut d'insuline. Donc il y a une petite opération à faire qui se fait dans la journée. On installe ce boîtier et après c'est lui qui gère. Alors, c'est vraiment bien dans certaines situations. Bon, on me l'avait déjà proposé quand j'étais à Saint-Étienne et justement le spécialiste qui me suivait trouvait que dans mon quotidien, c'était pas forcément... essentiel. Donc le fait que j'arrive à Marseille avec un nouveau praticien qui cherche vraiment à me... c'était pas qu'il était insistant, mais proposer à plusieurs reprises ce type de boîtier, et j'étais un peu réfractaire parce que déjà j'avais ma position, mon avis assez tranché là-dessus, et j'avais pas encore la confiance pour passer le cap et pour me fier uniquement à son avis. Donc, moi, mes arguments, c'était que je prenais bien en charge ma maladie et que, en plus, j'avais une pratique de sport, natation, etc., qui n'était finalement pas très pratique avec ce type de boîtier. Mais ça, ce côté sportif compliqué à gérer avec ce boîtier, il ne l'avait pas pris en compte. Il regardait que le côté maladie et parce qu'il trouvait que c'était bien d'installer des boîtiers à des patients qui sont plutôt jeunes. Alors, les jeunes, c'est vrai que c'est bien quand ils sont ados, tout ça, c'est des boîtiers, même pour les enfants. Et c'est vraiment top. Maintenant, quand on est comme moi et qu'on a l'habitude de fonctionner sans ce type de boîtier et d'injection, moi, je ne ressentais pas du tout le besoin d'avoir ce système de prise en charge. Alors, est-ce que le fait que je dise non a changé notre relation ? Non, pas du tout. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, il a compris. Et puis, ce n'était pas non plus insistant. C'était juste au début de rendez-vous, à chaque fois. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? J'argumentais toujours de la même manière et puis après, il arrêtait d'insister. Bon, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui ne me convienne pas du tout pour que je décide de partir. Mais en plus, quand on sait que c'est très difficile d'avoir un autre rendez-vous chez un autre spécialiste, bien souvent, on reste avec le même si dans l'ensemble, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui me ferait partir d'un spécialiste ? Déjà, moi, la première chose, je pense, parce que bon, je vois une fois ou deux fois dans l'année, il faudrait vraiment qu'il y ait un contact humain qui me déplaise totalement, quoi. C'est, je pense, le premier critère. Côté soit hautain, soit qui porte des jugements sur ma personne, un échange qui me déplaise vraiment. J'ai lancé un podcast aussi qui s'appelle Diabète Live. Alors, il faut savoir que moi, je travaille dans le milieu de la radio en tant que présentateur, journaliste, animateur. Je suis passionné par l'audio, la production de contenu, d'expliquer des choses aux gens. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et là, depuis quelques temps, je produis des podcasts. Il y en a un qui est dédié un peu plus à l'information au quotidien. J'avais envie de faire quelque chose pour justement les diabétiques. Il y a des communautés qui existent pour les diabétiques sur Facebook notamment, des groupes Facebook très actifs. Et je crois que c'était intéressant de leur apporter un contenu différent. Moi, ce qui me plaisait dans ce projet de Diabète Live, c'est de produire un contenu qui peut être accessible. Alors, en fait, toutes les informations qu'on peut y retrouver, on y a accès, par exemple, sur Internet, etc. Mais déjà, il faut savoir lire. Une fois qu'on sait lire, il faut savoir décrypter le contenu. Une fois qu'on veut lire le contenu, il faut être habitué parfois à lire des articles longs si on n'est vraiment pas informé de la maladie. Il n'y a pas du tout le côté vivant qu'on peut retrouver dans le podcast. Le podcast, l'émission, elle est accessible à tout le monde et tout le monde peut l'écouter et comprendre ce qu'on y dit. Ça, c'est vraiment la base de l'angle et du format de ce podcast-là. Et c'était une façon aussi de me rapprocher de cette communauté parce que j'ai toujours été très loin des gens qui sont atteints de diabète, et notamment des enfants. Moi, quand j'ai eu ma petite fille, ça m'a fait réfléchir qu'il n'y a pas du tout de problème avec cette maladie. Mais bon, ça m'a fait un petit peu changer. Ça m'a apporté une sensibilité un petit peu différente. J'ai pensé à tous ces enfants et surtout les deux, les enfants et les parents qui sont concernés par la maladie. des enfants qui sont diabétiques, c'est très compliqué. Et puis, c'est compliqué aussi pour les parents, pour qu'ils comprennent ce que c'est et qu'ils expliquent ensuite aux enseignants, aux profs, aux instits qui seront en contact de leur enfant, de l'entourage, etc. Donc, j'avais envie d'apporter une petite pierre à l'édifice de la formation ou en tout cas de l'information autour de cette maladie. Donc là, c'est le principe avec deux angles. C'est-à-dire on rassemble tout le monde. Un épisode où on a des patients comme moi, on parle tranquille de notre maladie avec un angle différent à chaque fois, soit par le traitement de la maladie, soit comment on fait pour customiser, cacher le petit boîtier qui n'est pas très esthétique tout le temps, soit comment manger, est-ce que vous faites du sport, etc. Donc il y a un angle à chaque fois différent. Et puis on a des spécialistes, des experts dans leur domaine qu'on côtoie soit au quotidien parce qu'on est diabétique, soit parce que voilà, ils ont développer des idées ou une approche différente qui peut nous faire réfléchir. Donc c'est un format un petit peu court. Alors de quoi est-ce que je suis le plus fier dans ce podcast ? Alors il y a deux choses. Il y a un côté, il y a à titre vraiment personnel, flatteur pour lancer un podcast comme ça, c'est qu'il y a des experts vraiment de renom qui sont intervenus et qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a les experts comprennent qu'il faut communiquer avec les malades. Et en pleine crise du confinement, j'ai eu des représentants de la Haute Autorité de Santé qui sont intervenus dans le podcast. J'ai des présidents de la Fédération des diabétiques qui sont intervenus, des médecins, des cardiologues. Donc ça, c'est le côté plaisant, quoi. Ça montre que le travail qui a été écouté est intéressant et ça montre aussi que de grands experts prennent du temps pour communiquer avec nous, les patients. Et puis c'est vrai quand il y a des jeunes parents, parce qu'en fait, je m'aperçois que ceux qui l'écoutent, c'est surtout ceux qui connaissent le moins. Donc forcément, ceux qui découvrent tout juste cette maladie, soit parce que leurs enfants découvrent une maladie, la maladie du diabète de type 1, soit parce qu'eux-mêmes, ils sont touchés. Donc voilà, c'est une satisfaction de savoir que quelques messages de temps en temps de personnes qui ont découvert cette maladie, se sentaient pas bien parce qu'ils avaient un manque d'informations, ils voulaient être rassurés, etc. Et ils ont trouvé un petit réconfort en écoutant quelques-uns de mes épisodes. Parce que sinon, ça risque de nous plomber. Donc, on est sur un ton léger et que tout le monde adhère à ce ton léger. C'est-à-dire que les experts, ils viennent, ils comprennent. Voilà, ils sont pas en train de parler entre spécialistes. Donc, il faut faire un effort. On est sur un ton décontracté, autour d'un café, comme si on était autour d'un café. Donc, l'idée, c'est de continuer, d'explorer le maximum de thèmes possibles. Peut-être de fédérer ou d'accompagner la communauté de diabétiques existe en France. Alors, quel conseil par rapport à la santé je pourrais donner ? S'informer sur des médias qui sont des médias d'information. Les groupes Facebook sont là pour accompagner le ressenti et non pour jouer aux médecins. Je dirais de ne pas se mettre de barrière en ce moment. Depuis quelques mois, je me lève à 5h30 le matin pour faire du sport. Et encore quelques mois, j'aurais dit c'est une folie pure.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Soigner Soignant, Win-Win, à votre santé. Merci à Rémi Bertolon de s'être livré au micro. Et merci à Mams pour la création des jingles. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Prenez soin de vous.